Chaque année, dans le cadre du Festival du Légendaire, la compagnie AMSA organise les Rencontres du Légendaire, un week-end dédié aux contes, aux mythes et aux légendes, à travers des spectacles, des expositions, des dédicaces d'auteurs, des conférences et des tables rondes. En 2022, ces rencontres ont eu lieu au Dianetum d'Annette et Radio Grand Ciel, comme lors des éditions précédentes, était partenaire de ce temps fort du festival pour vous permettre de revivre les deux tables rondes, des échanges qui avaient cette année pour fil rouge le thème « résistance » au pluriel. Nous vous proposons d'entendre aujourd'hui la première de ces tables rondes, enregistrée le samedi 19 novembre 2022 dans la salle Ronsard du Dianetum d'Annette. En partenariat avec la revue Native, elle avait pour thème « Les gardiens de la terre » ou « Comment les peuples premiers s'organisent pour sauvegarder leur patrimoine naturel et culturel jusqu'à devenir des lanceurs d'alerte planétaire qui nous interpellent ». Pour éclairer cette question, quatre intervenants dans l'ordre d'écoute, Céline Ripoll, Saba Ramani, Xavier Perron et Lorenza Garcia. Je laisse au modérateur de ces échanges, le conteur, poète, auteur, compositeur et musicien Patrick Fishman, le soin de les présenter comme il se doit. Bonne écoute.
Je vais présenter chacun et chacune. Alors Xavier Perron, il est écrivain, anthropologue, engagé, expert des peuples premiers, notamment au sein du GITPA, le groupe international de travail sur les peuples autochtones. Maître de conférences, tu as dirigé un laboratoire de géopolitique. Tu as été initié par les Maasai et tu es l'auteur d'articles, d'ouvrages qui concernent leur philosophie. Tu as réalisé des films documentaires, obtenu le prix Aleph pour les 9 leçons du guerrier Maasai, et tu animes des ateliers en France et des voyages initiatiques en terre Maasai. Si ça vous dit, vous pouvez prendre rendez-vous et partir après cette conférence. Lorenza Garcia est chanteuse, musicienne, plasticienne, compositrice, réalisatrice, passionnée par la culture des dîners. Les dîners sont les Navajos. Elle partage sa vie entre la France et l'Arizona, où se situe en grande partie ce peuple. Tu es correspondante pour la revue Native, consultante de Navajo France, et tu crées justement des passerelles artistiques et culturelles entre eux et nous, à travers des événements, des conférences, des projets en agroécologie. Saba Ramani, journaliste, rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen, co-directrice de la collection Voix de la Terre chez Actes Sud, conseillère à la rédaction de la revue Native des peuples des racines. Tu es l'autrice du livre Paroles des peuples racines, un plaidoyer pour la terre qui a été préfacé par Pierre Rabhi chez Actes Sud. Diplômée en anthropologie, passionnée par l'intelligence et la beauté des peuples premiers, elle travaille sur cette question des peuples autochtones depuis plus de 25 ans. Et après de nombreux voyages et travaux de terrain auprès des communautés dans le monde, ses sujets de prédilection portent sur les relations entre l'humain et la nature. Céline Ripoll, danseuse, après avoir suivi une école de formation en clown et cirque, elle s'envole pour 3 mois de périple sur les îles de Polynésie française à la recherche de la légende Nikorima, un guerrier au visage à moitié tatoué qui danse pour défendre son village. Elle n'entendra pas cette histoire, mais les anciens lui raconteront une multitude de légendes, des bouts d'épopées, des mythes, des morceaux du chant de la création du monde. Et depuis ce premier voyage, elle parcourt les îles du Pacifique, de Tahiti aux îles Marquises, en passant par l'île de Pâques où elle s'est établie, en recherchant des légendes venues de la nuit des temps. Donc elle se balade entre la France et le Pacifique. Elle revient créer chaque année des visites comptées pour les expositions océaniennes au musée du Quai Branly, où elle officie depuis son inauguration en 2006. Elle s'efforce de nous ouvrir les portes des cultures océaniennes, encore trop souvent méconnues, et elle a créé sa propre maison d'édition, Moai Édition.
Oui.
Voilà. Alors, j'ai prévu de faire un petit préambule assez court sur les peuples premiers, de façon à ce qu'on n'ait pas d'hérodite, puisqu'on a un temps assez court. Alors, on voit aujourd'hui, nous vivons des temps déraisonnables. Des bandits en col blanc se sont arrogés le titre d'écologiste. Ils ont inventé des droits de polluer, la chimie raisonnée et le nouveau concept qui s'appelle la pollution minorée. Ça vient de sortir. Bref, nous avons besoin d'une parole au-dessus de tout soupçon. Bienfaisante, résistante, résiliente. Et cette parole, elle existe. C'est celle des peuples qui n'ont pas perdu le sentiment d'être un fragment de la nature. On les appelle les peuples de racines, d'ailleurs. Elle est au cœur de ce thème de la résistance et elle est naturelle dans le monde des contes, puisque ceci aussi témoigne de l'unité du vivant. Dans les contes, les arbres parlent, les animaux, tout est parent. Les Maasai disent « Seul l'œil qui a voyagé est intelligent ». Et ici, à nous tous, à cette table, nous avons été un peu partout avec ce regard pétillant de nomade. La sauvegarde des patrimoines naturels et culturels des peuples premiers apparaît comme un noyau vital aux forces d'éveil. Ces traditions contiennent des visions complémentaires qui servent toute l'humanité. Et comme elles ont la saveur de leur lieu de manifestation et qu'elles sont imprégnées des qualités d'une même source, leur étrangeté réveille en nous l'intime et nous émeut. Car comme pour ce qui est du message des contes, il n'y a que lorsque nous sommes émus que nous pouvons changer. Alors c'est ça la première question que je vais vous poser. Quel est le souvenir le plus marquant dans vos échanges avec les peuples premiers, l'émotion la plus à même de nous étonner et de secouer les consciences engourdies? Est-ce que ça a pour vous un rapport avec de la résistance?
Oui, comme tu disais, quand j'ai commencé le conte, en 2002, je cherchais ce que j'avais à dire. C'était une chose, je savais que je voulais raconter des histoires, mais qu'est-ce que j'allais dire, je ne le savais pas. Puis tout d'un coup, il y a eu une rencontre avec une histoire, donc celle de ce guerrier dont tu as parlé, Nikorima, un guerrier au visage à moitié tatoué. Je me suis dit que c'était cette histoire-là que je voulais raconter dans ma vie. Elle était de Polynésie, mais je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, la Polynésie. Et puis, les synchronicités de la vie dont on parlait tout à l'heure me mettent sur un chemin et je pars en Polynésie. Et la Polynésie, ben, je ne savais pas vraiment, il n'y avait pas trop Internet à l'époque, à part là une carte postale qui fait rêver tout le monde. Moi, je n'avais qu'une idée en tête, c'était cette histoire. Et arrivé là-bas... On m'avait donné un numéro de téléphone d'une personne qui était censée avoir cette légende dans son héritage familial. Je téléphone et la personne me dit « C'est qui le guerrier que tu cherches ?» Je dis « C'est Nikorima, c'est la légende d'un guerrier au visage à moitié tatoué. » Et la personne me dit « Mais c'est qui t'a dit ça ?» J'ai dit « Mais c'est Jean-Jacques en France qui m'a dit que vous connaissiez cette histoire et que c'était un de vos ancêtres. » Et il me dit « Ah, Jean-Jacques, et tu l'as cru ?» Sauf que j'avais fait la moitié de la terre et que j'étais là, c'était mon premier jour. En plus, j'avais fait un projet avec le conseil général. Je voyais déjà qu'il fallait que je rembourse l'argent. Bref. Et puis la fille qui m'héberge me dit « Mais Céline, ici en Polynésie, tout le monde est tatoué. » Je lui dis « Ah bon ?» Elle m'a dit « Écoute, si tu veux, de toute façon, à Tahiti, personne ne te racontera d'histoire. Va à Dillon-Île et cherche. » Et je vais déjà de bateau en bateau et je peux monter sur un cargo et j'embarque sur un cargo qui va donc d'Dillon-Île. Et le soir, je suis qu'avec des Polynésiens sur le port de ce cargo. Et j'ai le capitaine qui vient me voir et qui me dit « Alors tu sais, moi, les océans, je les connais tous. Je suis partie partout autour du monde. Si tu veux, à chaque fois que j'allais sur une terre, soit elle est vivante, il y a même des terres qui sont mortes et qui ne parlent plus. Tellement il y a du béton dessus. Tu vois. » Et il me dit, mais à chaque fois que j'allais, qu'il y a la terre qui me parlait, j'emportais un dessin avec moi. Si tu veux, viens dans ma cabine. Je vais te montrer ma collection de dessins. Et je lui dis, je ne suis pas venue pour ça, mais si tu veux, va dans ta cabine et va chercher ton album photo. Et il m'a dit quoi ? Album photo ? Il m'a dit, moi, je n'ai pas album photo. Tu veux voir mon voyage ? Ok, je te montre. Et il s'est retourné, il a enlevé son t-shirt et sur son dos est apparue une carte. Et c'était tous les pays du monde où il était allé et où la terre lui avait parlé, et il avait voulu garder ça avec son langage à lui de Polynésien, c'est-à-dire le tatouage et avoir le monde dans la peau. Et en fait, j'aurais pu dire ah ouais, t'as été là, ou ah, ça fait mal. Et non. Et je lui ai dit, vas-y, raconte. Et c'est là qu'on bascule justement dans cet autre monde. Il aurait pu dire, ah, t'as vu, je suis allée, t'as vu, c'est la tour Eiffel, machin. Et non, en fait, quand tout d'un coup, tu acceptes de passer dans l'invisible de l'autre, dans ce qui est son monde à lui, sa résonance, son rêve, ou son invisible. Et j'ai basculé avec cet homme-là, Ropatija Ganahota, et le voyage a démarré. Il ne s'est jamais arrêté, même si de temps en temps je suis revenue un peu les pieds sur terre. Hein, quelques petits trucs des fois qui te ramènent à la réalité, mais franchement, cet invisible-là, ce merveilleux dans le quotidien. En Polynésie, c'est comme ça que je l'ai vécu, puis après partir aux îles Marquises, ces gens-là sont tout le temps entre légendes et réalités. Et puis, c'est ce qui m'accompagne et c'est ce qui accompagne mes racontés. Merci. Voilà mon expérience sur la Polynésie.
En tout cas, moi, je voulais dire d'abord merci d'être là, à tous ceux qui sont là, vous qu'on voit, et aussi merci à ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont là aussi. C'est-à-dire que non seulement il y a des présences qu'on ne voit pas, mais il y a aussi des présences qu'on doit reconnaître et être dans cette gratitude vis-à-vis de, en tout cas, beaucoup dans mes racines. Je suis d'origine berbère, marocaine, et toujours de remercier la terre et de remercier les ancêtres. Pourquoi ? Parce que ma grand-mère nous disait nos ancêtres continuent toujours de nous accompagner. Et s'il n'y avait pas eu cette reconnaissance de la lignée, hein, de nos ancêtres, on ne serait pas là. Et cette mère, cette terre qui nous nourrit. Et quand on était petit, donc même si je suis née en France, dans l'Eure-et-Loire, à Nogent-le-Rotrou, pas loin d'ici, et on allait l'été donc chez les grands-parents, il n'y avait ni eau ni électricité. Et puis, il n'y avait pas la télé, c'était au début des années 80, on était dans les petites montagnes berbères. Et le soir, qu'est-ce qu'on faisait avec mes grands-parents, mes parents, les tantes, les oncles, les cousins? Il y avait toutes les générations confondues. Et on regardait le ciel, on regardait les étoiles. Et là, commençaient les contes, commençaient les histoires merveilleuses, des ancêtres, des animaux qui parlent, des étoiles filantes, des ancêtres qui nous regardent, de tout cet invisible qui fait partie non seulement de l'imaginaire, mais qui est aussi vraiment présent dans la nature. Parfois, il y avait beaucoup aussi de silence, parce qu'il y a des choses dans le non-dit qui passent beaucoup plus que dans les paroles, même si aujourd'hui on nous demande de parler, mais qu'en même temps, il y a toute une communication qui n'est pas que dans les contes. Parce que dans ce que nous racontait, par exemple, mon père, quand on allait se coucher, ma mère nous racontait toujours des histoires, des contes avant de se coucher, parce qu'ils étaient analphabètes, mais ils avaient eu cette transmission du récit. Et pour eux, ce n'était pas une croyance ou un imaginaire. Ils disaient, oui, dans les temps anciens, les animaux parlaient. Et après, ma mère me disait, mais ils continuent de parler à ceux qui savent les écouter et ceux qui savent communiquer avec eux. Et on est dans un monothéisme hein, de l'islam traditionnel, soufi, et en même temps, d'héritage berbère, animiste. Et mes grands-parents me disaient surtout, n'oublie pas ça, même si tu vas dans la migration, même si tu voyages, tu grandis en France, en Occident. Et en même temps, à l'école, on nous apprend tout le contraire ici. Donc, ce qui était intéressant, c'était moi, quand j'ai terminé les études au lycée et j'ai commencé à aller à Paris, faire des études, et puis finalement avec l'anthropologie, je me suis rendu compte, je me suis dit, j'ai envie de comprendre pourquoi ces deux mondes s'opposent. Et en allant sur le premier travail de terrain chez les Aymara en Bolivie, j'avais 21 ans, et quand je me suis retrouvée dans une famille, on était assis dans le patio, par terre, on mangeait, comme chez mes grands-parents. Et là, les histoires ont commencé à être racontées, on regardait le ciel, les étoiles filantes. Et là, je me suis dit, mais c'est dû à mes 21 ans et que c'est ma naïveté, mon innocence. Je me disais, mais c'est incroyable. Comment ça se fait qu'on puisse retrouver d'un bout à l'autre de la planète avec des cultures, des histoires, des religions très différentes, quelque chose finalement d'universel. Et depuis 25 ans, c'est cette unité dans la diversité qui m'a vraiment touchée et que j'ai essayé de retracer ce fil, ce récit, ce conte, et de se rendre compte que tout simplement que chaque arbre, certes, a ses racines, mais l'arbre de l'humanité se rejoint forcément avec un tronc commun. Et dans ce tronc commun, qui se situe là dans le corps, je l'ai retrouvé aussi au Gabon chez des amis Pouvi Pygmée, et il disait, ben voilà, l'être humain, on est aussi dans leur conte, dans leur mythologie, on est des arbres... Dans les premiers temps, on descendait de l'arbre, et que l'humain et l'arbre étaient des frères, et qu'en fait, que l'humain, dans sa constitution, est aussi un arbre. Ses pieds avec les racines, le tronc qui se trouve aussi, où le cœur est au cœur du tronc, les bras, et puis les cheveux, c'est les feuilles. Et il me disait, mais surtout, ce qu'ils m'ont enseigné, initié, c'est que n'oublie pas qu'on s'échange, ils disent, on s'échange les vents, c'est-à-dire on s'échange les vents, tout simplement parce qu'on échange la respiration. Cette respiration, c'est le dioxyde de carbone et l'oxygène qu'on dit, ben oui, l'arbre il dégage le dioxyde de carbone, l'oxygène qu'on respire, et nous le dioxyde de carbone que l'arbre va absorber. C'est beaucoup plus poétique de dire on s'échange les vents. Et tout simplement pour nous rappeler le cœur des choses, que l'être humain n'est pas au-dessus de la nature, mais cette communication, elle passe pas forcément par des choses verbales, mais ne serait-ce que la respiration. Et ça, de se remémorer cet essentiel, de se dire oui, on est interdépendant de tout ce vivant qui nous entoure, qu'il soit visible ou invisible, quelle que soit sa forme. Et ça, pour moi, ça a été une remise de cette profonde unité qui relie tous les vivants et qui sont tous reliés les uns aux autres dans l'unité, dans la diversité. C'est ça que les peuples autochtones m'ont vraiment réveillé, éveillé. Merci.
Merci. Les Maasai remercient tout le temps. Et remercie la déesse du ciel, la déesse de la terre, parce que chez les Maasai, en fait, Dieu est féminin. Ça m'arrange bien, d'ailleurs, parce que je suis très féminin. Enfin, je veux dire, j'ai épousé, l'idée selon laquelle, en fait, vous avez remarqué que la vie est fragile. Et que par conséquent, il faut épouser le mouvement de la vie pour les Maasai. Donc, effectivement, les hommes se féminisent, plus ils grandissent en âge, plus ils se vêtissent même en femmes. C'est pas pour devenir des femmes, mais simplement pour louer l'idée que le divin en soi est quelque chose qui appartient au monde sacré de la femme. Et ça, je trouvais que c'était formidable, savoir que nous sommes des funambules sur le fil de la vie, où nous faisons la navette en permanence entre les deux éléments de la paire, puisque chez les Maasai, tout fonctionne par paire. Et Il Maasai vient de Il Mao, qui veut dire les jumeaux, qui reflètent justement leur spiritualité, selon laquelle tout dans la vie, à l'extérieur de soi, bah, vous avez le jour et la nuit, vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre ? La pluie, le soleil, à l'intérieur de soi, vous avez des élans altruistes et des élans égoïstes. Hein, on est les deux, ombre et lumière. On a une polarité masculine, polarité féminine. Mais malgré tout, pour les Maasai, on atteint l'unité en étant encore dans une vibration féminine. Troisième catégorie, qui est en fait Nkai, qui est un utérus sacré, c'est le ciel. Eh bien, on atteint le ciel lorsque on a justement fait la navette entre les deux polarités et où on est effectivement dans l'unité, on est interrelié aussi avec le reste de la création et les autres êtres et les arbres aussi. D'ailleurs, les Maasai disent que nous sommes des arbres qui marchent. Donc, c'est tout à fait ça. Et je voudrais juste vous raconter une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'ai débarqué chez les Maasai, alors que moi, je suis brestois, j'ai rien à voir avec l'Afrique ou les Maasai, encore moins. Mais en fait, je me suis noyé du côté de Brest à Brédiogan quand j'avais 6 ans. Et j'ai fait une expérience de mort imminente et après, je faisais un rêve et c'était déjà les Maasai. Pour qui, pourquoi ? Ben, vous voyez, ben, c'est des signes. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, parce que là, il y en aurait pour des heures. Mais je voudrais juste vous raconter cette anecdote. Ben oui, cette anecdote qui est quand même assez extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi. Imaginez-moi chez les Maasai, au début, j'avais 23 ans, j'étais beau, évidemment très beau. Et je marche avec une jeune fille pour garder les vaches. Parce que les Maasai, c'est le peuple de la vache. On les appelle d'abord les Inkishu, les vaches en tant que peuple. Hein, donc la vache est sacrée. Ils ont d'immenses troupeaux. Mais il y a aussi des animaux sauvages. Il y a des lions, il y a tout ce que vous voulez. Des buffles, des léopards. Mais il y a aussi des serpents. Et une fois, au début, il y avait des trucs incroyables. Il y avait des serpents qui sautaient des herbages. Vous savez, un peu comme des poissons. Quoi. Je me dis, c'est incroyable. Et alors, une famille m'avait adopté, etc. Donc j'avais un frère, deux frères. Non, trois frères. Mais enfin, celui-là... Oui, celui-là était le porte-parole de la classe d'âge qu'il m'avait attribué. C'était Takuna, il était vraiment extraordinaire. Enfin, j'étais vraiment adopté comme quelqu'un de la famille, mais très simplement, hein, en toute humilité, et puis en beaucoup de drôlerie. Hein, beaucoup de drôlerie, il s'amuse tout le temps. Et alors, il m'avait répondu, donc, est-ce que c'est dangereux? J'avais dit, est-ce que c'est dangereux les serpents? Voilà. Il m'avait dit, si tu n'as rien à te reprocher, il ne t'arrivera à rien. Alors, j'ai mis un peu de temps à comprendre. J'ai compris qu'en fait, il voulait dire qu'il fallait être bien construit intérieurement pour, d'abord, vaincre ses peurs. Tu peux affronter tous les dangers que tu veux parce que tu as des fondations solides, que tu es en équilibre, tu fais bien la navette entre les deux éléments de la paire. Hein, que tu te dis, il n'y a pas de bien-être sans justement ce petit grain de sable, des serpents qui sautent. Chez eux, effectivement, j'ai compris que tout est vibratoire et que tout passe par l'ouverture du cœur et tout passe par l'amour. D'ailleurs, pour prendre une décision, on va dire agnora, c'est-à-dire être en amour les uns avec les autres. Mmh. Que chacun doit avoir le sentiment que la décision lui revient, qu'il a pu s'exprimer autant qu'il le souhaitait, et bien tout ça avec amour. Les relations sont tout à fait simples, humbles, et c'est ça que je trouve qui est assez extraordinaire chez des peuples reliés comme ça à la nature, et aux arbres en particulier. Pour dire cet arbre est grand, on dit « Eshomo Elishani Enkai ». Ça veut dire « cet arbre s'est élancé vers la déesse ». Vous imaginez pour dire un grand arbre? C'est magnifique, hein? Et en fait, la danse des Maasai, ils sautent toujours plus léger, parce que pour eux, on traverse la vie pour s'alléger de ses fardeaux. C'est extraordinaire. Et donc, tu dois être aussi léger qu'une plume légère. Et la meilleure qualité qu'on décerne à un homme ou une femme, évidemment, c'est d'être une enkopiro, c'est-à-dire une plume légère. Alors, si à la fin de ta vie, on te dit que tu es une plume légère, waouh. Et ça fait penser, évidemment, à l'Égypte d'Akhenaton, où l'on pesait l'âme avec une plume, hein, savoir que si, voilà, c'était le même. Les Maasai viennent de là d'ailleurs, donc il y a quelques réminiscences, transmissions. Donc effectivement, pour revenir à ce que tu m'as dit tout à l'heure, seul l'œil qui voyage est intelligent. Je vais vous le dire en Maasai si vous voulez, Nkongo Naipanga Engen. Seul l'œil qui voyage est intelligent. Alors, dans tous les sens du terme, bien sûr, hein, mais c'est surtout une signification spirituelle. Ce qui va être plus important, ce n'est pas tes yeux extérieurs, mais c'est tes yeux intérieurs. Développer ton intuition. Ils disent aussi « Edol ongu olion kake medol à toi ». L'œil voit l'extérieur, mais l'extérieur ne fait que passer. Illusion. Moi, je suis toujours scotché par le fait que les Maasai répondent à une question que tu n'as pas posée, mais que tu t'apprêtes à poser, tu vois. Ça doit vous arriver aussi.
Oui, oui, oui. Ouais.
Bravo. Et c'est ce qu'on appelle la télépathie.
Oui, la présence aussi.
C'est la présence.
Ah oui. Oui. Merci.
Voilà, merci à vous.
Bon, je crois que tout a été dit. Ce qui est joli dans cette histoire, là, dans cette table ronde, c'est qu'on a eu la chance, Xavier et Saba et moi-même, de faire en sorte que les Maasai puissent rencontrer les Diné, les Navarro et aussi à Sosa, Pygmé, hein, lors d'un forum qui s'appelle le Forum des Peuples Racines, qui aura lieu, je fais un petit peu de pub, qui aura lieu au mois de juin à Strasbourg. Et donc, ta question, pour moi, elle reflète une histoire qui est propre à la mienne, parce que lorsque j'ai rencontré les dîners en 1996 à Paris, je ne m'y attendais pas du tout. J'avais le mythe du héros qui était plus relié à celui des Indiens que des cow-boys, ça c'est certain. Mais disons que j'ai rencontré les dîners en 1996 à la Villette, lorsqu'il parlait de la voix de la beauté. Et donc tu parlais d'amour, tu parlais de féminin. Et pour eux, la voix de la beauté fédère une déité qui est femme changeante, femme qui change, c'est-à-dire une femme qui change, c'est-à-dire qui a la possibilité d'être reliée aux quatre saisons, à l'automne, à l'hiver, au printemps, à l'été. Et donc, de par ce qu'elle vit, elle fédère pour les peuples à cinq doigts, c'est-à-dire les dîners et les peuples. Nous sommes les peuples à cinq doigts. Quelque chose qui est de l'ordre de la régénérescence, de la transformation et de l'alignement avec l'ordre de l'univers. Donc j'ai rencontré les dîners parce que la voix de la beauté, à travers leur vision, m'a interpellée en tant qu'artiste. Et qu'est-ce que j'ai vu à ce moment-là ? J'ai vu des hommes et des femmes médecine qui traçaient avec leurs doigts chargés de sable leur histoire, leur cosmogonie, et qui chantaient en même temps. Jusqu'à présent, j'avais à peu près une trentaine d'années à ce moment-là, je me sentais divisée, séparée, parce que je me souviens qu'on me disait, bah, écoute, si tu es chanteuse, tu ne peux pas être peintre. Si tu es peintre, tu ne peux pas être actrice. Si tu es actrice, tu ne peux pas faire du théâtre. Parce que tu... Voilà. Si tu es ci, tu es ça. On me demandait de séparer mes arts, les arts qui m'avaient été donnés par la nature, des dons, c'est-à-dire des qualités de dons, qui me permettait à travers le chant et à travers l'art d'exprimer mes ressentis. Et là, je retrouvais un peuple qui alignait cette capacité à transformer la vision du monde à travers des voies de guérison. Donc lorsque eux utilisent le sable et ils chantent, ils entament des processus de guérison qui permettent à un patient, à une personne ou à une communauté de se remettre en alignement avec les lois de l'univers. Grande vision, voilà, ça a été une vraie ouverture pour moi, et ils m'ont demandé de pouvoir les rencontrer sur place. C'est ce que j'ai fait un an et demi après. Donc une fois que je les ai rencontrés sur place, à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien de tout ça, on s'échangeait avec des courriers. Donc j'envoyais une lettre à un homme médecine que j'avais rencontré à la Villette, parce qu'à un moment donné j'avais dit coucou, c'est moi, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et puis il m'avait dit, bah, viens un jour nous voir. Et puis bon, après, je me disais, je ne sais pas si la lettre va être reçue. Et je ne sais pas, 6 mois après, je recevais une lettre d'eux qui me disait, on t'attend, on te demande de venir tel jour, tel mois, voilà, à tel endroit, à telle heure et tout. Moi, j'étais très, très excitée. Je prends un billet d'avion. C'est la première fois que j'allais aux États-Unis. Je quittais ma famille, mes enfants. Et j'étais très fière d'être invitée par les Indiens pour aller aux États-Unis. Donc je vais les rencontrer sur place, j'avais rendez-vous avec un homme médecine, et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au moment où je vais à l'endroit et à l'heure précis, et derrière le dernier cactus là, l'homme médecine n'est pas là. Donc je me dis, ah bah, c'est sympa tout ça, cette histoire là, qu'est-ce que je fais moi maintenant avec mon billet là, mes enfants qui sont à l'autre bout du monde, moi qui croyais que j'allais rencontrer l'accordement de toutes les planètes pour moi, pour ma vie, n'est-ce pas. Et je vais très 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 déçue, je retourne vers le lieu, un des lieux où m'accueillait une famille Navarro que j'avais rencontrée aussi à Paris. Et donc j'avais un petit peu peur parce que la nuit tombait. J'avais lu 2-3 choses sur les dîners, et une des choses c'était qu'il me disait qu'il fallait se méfier de coyotes. Bon, bah, ok. Et il se trouve, voyez-vous, qu'au moment où je n'avais pas rencontré l'homme médecine qui m'avait dit de venir à tel jour, à telle heure, machin, un coyote traverse ma route. Et là je me suis dit, panique à bord. Ça ne va pas du tout, parce que coyote c'est un fouteur de...
Bazar.
Bazar. Il ne fait que ensemencer le trouble. Évidemment, j'avais une jeune femme avec moi, Navarro, dîner, qui était une jeune femme de 17 ans, qui avait été élevée sous le prisme du christianisme, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de divisions au moment du colonialisme. Et elle me dit, ça va pas du tout, on a rencontré un coyote, la nuit tombe, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et moi, je disais, ça va pas du tout, moi, ça va pas du tout. J'étais très, 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 très embrouillée. Au moment où on était sur ce qu'on appelle une dirty road, c'est-à-dire une route que de sable, il y a une voiture très haute parce qu'ils ont des gros 4x4. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais loué une petite voiture. Et des fois la caisse, le plancher de la voiture était rayé par les pierres. Je me disais, je vais non seulement foutre ma vie, enfin mon voyage en l'air, mais en plus je vais rendre une voiture abîmée et tout. Bon, bref, la grosse panique. Et la voiture arrive un peu haute, les trucs là, se rapproche. Et elle, ma voisine qui était paniquée, coyote qui avait traversé ma route, elle se rapproche et elle s'arrête pile poil là. Et je vois une vitre sombre descendre. Et là, je disais, mes enfants, je vous aime. Je descends la vitre et il y a une femme qui me dit, What are you doing here? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh, hey! Je lui dis, Ah, what's the meeting? J'avais un rendez-vous avec un homme très en colère à la Frenchie. J'avais un rendez-vous avec un homme médecine, mais bon, vous voyez, je veux dire, il n'est pas là et tout, donc voilà. Et elle me dit, « Do you know where with the square dance, the ceremony ?» Elle me dit, « Vous savez où est la cérémonie ?» Je dis, « Non, je ne sais pas où est la cérémonie, je ne sais rien du tout. Moi, je veux juste, à un moment donné, rentrer chez moi, voilà. » Et elle sort un paquet. Elle me dit, « Oh, OK, you can't drive by yourself here, it's night. Tu ne peux pas conduire toute seule, il fait nuit, tu ne peux pas, en tant que femme, conduire toute seule ici. Tiens, je te donne un paquet. » Tu vas remettre ça à l'homme médecine. On va trouver la cérémonie ensemble. Bien, madame. Je remonte la vitre, machin. Et à nous deux, on va essayer de trouver le lieu de cérémonie. Là, quelque chose s'ouvre. Je me dis que Coyote, peut-être, n'est pas si terrible que ça. Quelque chose s'ouvre là, et hop, sur la gauche, qu'est-ce que je vois? La femme qui me fait la voiture devant, qui me demande d'arrêter, elle tend le bras comme ça, elle me dit là. Donc elle met son clignotant, elle tourne sur la gauche et je vois un énorme feu. Des chevaux courir dans le sens des aiguilles d'une montre autour du feu et des cris, des voix, des chants. Là, quelque chose se passe pour moi. Je gare ma voiture, j'ouvre la porte, la femme me dit... L'homme Nancy est là-bas, va lui remettre le paquet que je t'ai donné. J'étais à moitié myope à l'époque. Entre-temps, je me suis fait opérer parce que je ne voyais plus rien. Je dis d'accord, je continue à obéir et je continue. Et au fur et à mesure que j'avance, je reconnais l'homme médecine avec qui j'avais rendez-vous et qui n'était pas là. Je le vois avec mon paquet et il me dit « Lorenza, how did you know to find me? Comment t'as fait pour me retrouver ?» Et je lui dis, mais attends, j'ai reçu ta lettre, tu m'as dit de venir devant le cactus à tel jour, à telle heure et tout, tu n'y es pas. Et tu me demandes comment je t'ai fait pour te retrouver. Et puis il me dit, et puis vous sentez ma colère quand même à la française. Et je lui dis, écoute, je suis fatiguée. Il faut que je te redonne un paquet, je ne sais pas, je te le redonne. Et puis après, je vais peut-être me reposer. Il rigole et il me dit, où as-tu garé ta voiture? Je lui dis, bah là, juste là. Il me dit, mais tu as garé ta voiture juste derrière la mienne. Et là, qu'est-ce que chose se passait entre lui et moi et le monde invisible, automatiquement. De là, il m'a présenté à tous les hommes médecine. Je suis rentrée dans le lieu de cérémonie. J'y suis restée 9 jours et 9 nuits. J'ai chanté avec eux. Et à la fin de la cérémonie, il y a un homme médecine qui m'a dit « Reste avec nous. Et quand tu reviens dans ton pays, dis-leur qui nous sommes. » Et c'est ce que je fais depuis 25 ans.
L'heure tourne, mais c'est bien parce que vous avez répondu à plusieurs des questions que j'avais prévues. Donc ça se passe plutôt bien. Je vais poser une question à Céline, dont on se connaît. Et j'ai souvent pensé à toi sur l'île de Pâques, au pied des statues Moai. Cette grande solitude dans laquelle tu as plongé, sur une terre où subsistent les traces d'une civilisation disparue. Bon, tout ça n'était pas gagné, tu nous en as parlé un peu.
Oui.
Puis cette formidable contribution à raconter aux enfants autochtones leur culture.
Oui.
Ce que tu fais. Monter une maison d'édition là-bas, la populariser, puis cette idée de traduire Le Petit Prince.
Oui.
Pour que le don de ta parole soit aussi l'apport de ce que notre propre culture a fait de mieux et ce qu'elle peut offrir alors qu'elle prend plus souvent qu'elle ne donne.
Oui.
Est-ce que tu peux... tu nous as parlé de ton parcours et des forces de vie que tu as récoltées. Est-ce que tu peux nous dire, dans cette sagesse océane que tu as trouvée, quel est pour toi l'aspect le plus prégnant au niveau de la résistance? Est-ce que l'océan ou le fait d'être une île, par exemple, ça joue un rôle?
Je crois qu'il y a une résistance qui est, même si on ne se voit pas, on se reconnaît dans un invisible. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous, on se ressemble plus ou moins de par notre couleur ou quoi, et pourtant on se divise beaucoup, on se donne des catégories, on se déclasse énormément. On se juge, on se rabaisse. Qui est le, je vais dire, qui est le plouc de l'autre? Qui est le plus paysan? Qui est le plus ceci ou quoi? Et en Polynésie, la première des choses, quand quelqu'un arrive, on le reçoit. Après, on voit, ami ou ennemi. Mais d'abord, on le reçoit. Il est homme, et il y a d'ailleurs une parole qui a été faite, une prophétie qui a été faite avant contact avec les Occidentaux sur un grand marae, un lieu de culte qui s'appelle le marae Taputapuatea, où à un moment il y a quelque chose qui se passe sur un arbre et un grand prêtre, un Tohuka, dit « Je vois des hommes arriver issus du même arbre mais pas de la même branche ». Et je crois qu'il y a quelque chose dans la résistance, en tous les cas par rapport aux Polynésiens, oui, ou aux Océaniens, c'est que d'abord on est issu du même océan. On est plus ou moins de la même couleur, il y a eu des métissages, et ça, peu importe. Moi je me rappelle, les gens me disaient quand ils voyaient mes filles jouer avec les autres enfants, c'est pas que mes filles étaient bien éduquées, ou que mes filles étaient libres, ou que mes filles, elles disent oui à tout, parce que je leur ai enseigné à aimer l'autre. Non. Elles vont voir l'autre parce que c'est dans leur sang. Ils se sentent, on se sent entre nous les Polynésiens. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Je suis, par contre, là où je suis profondément certaine, c'est que dans leur cœur, ils disent oui d'abord à l'autre, oui à eux. On est des toutes petites îles, des petits grains comme ça au milieu d'un océan. Alors si déjà on n'est pas ensemble, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? On ne peut pas traverser l'océan si je n'ai pas ta connaissance à toi des vents, ta connaissance à toi des étoiles, ta connaissance à toi des arbres pour faire la pirogue. Et donc on est d'abord ensemble. Une fois qu'on est dans la pirogue et qu'on est parti, là c'est la bagarre, mais ça c'est les trucs de famille. Ouais. Face à ce qui vient, on est d'abord ensemble.
Oui, c'est ça.
On est ensemble.
La résistance, donc, c'est de ne pas se laisser aller à un jugement prématuré.
Très bon résumé, voilà. Vraiment. Bon. Mais je dirais que si j'avais dû apprendre vraiment quelque chose d'eux, c'est d'abord oui. Après, on voit.
Il nous reste, je suis obligé, j'aime pas ça, mais bon, il nous reste 13 minutes. Donc je vais vous poser deux questions en même temps et je vous demande de répondre d'une façon concise, si possible. Hein, Xavier? Alors voilà ces deux questions en même temps. Il est certain que dormir sous les étoiles vous rapproche des mystères. Nager dans la rivière, cueillir et récolter sa nourriture, vivre les cycles et les saisons, toutes choses que certains peuples vivent encore, même si leur espace vital diminue, tout cela n'est pas le lot de l'homme dit moderne. Alors, la première chose, c'est quelle part attribuez-vous à cette expérience que vous avez eue en étant infusé dans la nature? Et pensez-vous qu'une parole habitée puisse donner le goût et féconder la conscience de ceux qui n'ont pas voyagé? Ça, c'était la première chose. C'est-à-dire que nous avons les peuples racines qui sont des éveilleurs, et puis nous faisons l'intermédiaire auprès des gens que nous rencontrons ici. L'autre question qui est liée, c'est jusqu'à il y a moins 13 000 ans, le nomadisme et l'animisme étaient le lot de l'humanité. La nature ou la grande déesse était honorée, c'était le destin de tous. Après et jusqu'au début du 19e siècle, l'agriculture s'est développée. La nature est alors domestiquée. Puis jusqu'en 1989, c'est très précis, c'est l'ère du rationalisme. La nature devient un décor. On commence à parler d'environnement. Et depuis, le monde des écrans nous a envahis. La nature est une image et c'est le monde du réseau. Les peuples premiers baignent aujourd'hui dans ces trois mondes. Est-ce qu'ils sont encore reliés au premier? Il y a de l'agriculture aussi. Et puis, ils vivent dans le monde moderne. On prend les Inuits, par exemple, ils se servent beaucoup d'Internet. Donc, puisque vous avez beaucoup de contacts, comment font les lanceurs d'alerte autochtones?
Pour la première question, concernant le lien au vivant, hein, c'est ça?
Oui.
Il y a quelque chose de très commun aussi entre différents peuples racines, c'est qu'ils remercient tous les règnes. On a tendance à anthropocentrer le monde, hein, de voir la vision que du point de vue humain. Mais le règne minéral, tout ce qui est pierre, les pierres parlent. Une fois, j'étais allée faire un reportage dans le sud algérien, chez les Touaregs, et puis il y a un journaliste, un collègue, je faisais une halte à Alger, qui me disait, mais tu vas voir là-bas dans le Sahara, je te dis, les pierres parlent. Moi j'avais quoi, 25 ans, je me disais, bon, les pierres parlent. Je dis, je ne sais pas ce qu'il a fumé, il est bizarre celui-là. Et puis, je suis allée dans le désert, effectivement, plusieurs fois depuis. Il y a un guide, son surnom c'était Ushuaïa. Il dit, viens, je vais t'emmener dans un coin différent. Et puis, on est allé sur place. Effectivement, c'était pas que le désert de sable, ça commençait à changer. Il y avait des pierres, des montagnes, des rochers. Et là, il me montre des peintures rupestres et il y avait des fossiles. Et en fait, je me suis sentie traversée par une sensation bizarre. Et il y avait le vent et les éléments. Et là, j'ai effectivement commencé à entendre des voix. Et je me suis dit, oula, voilà, je prends aucun conscience, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai un doute, je me méfie de la psychologie, je le regarde, je dis, mais c'est quoi ici? Il dit, tu entends? Et je suis pensée, je lui dis, oui. Il m'a dit, mais c'est normal, t'inquiète pas, tu n'es pas folle. Il y a des lieux, les pierres parlent effectivement ici. Alors, ça ne parle pas comme là, comme je suis en train de le faire. C'est beaucoup plus subtil, évidemment. Donc, ce monde minéral, et chez les Inuits aussi, il y a Jean Mallory qui en parle très bien dans ses ouvrages, où il y a des chamans Inuits qui lui disent, voilà, tiens, cette pierre, quelque chose comme ça, la pierre parle. Et ça, on retrouve vraiment partout. Donc, il y a le règne minéral, le règne végétal, hein, on a parlé des arbres tout à l'heure, mais il y a aussi toute la dimension des plantes, avec lesquelles les hommes et femmes, médecine des peuples racines communiquent. Il y a le règne ensuite animal, hein, ce qu'on appelle aussi la communication avec les animaux totems. Le règne humain, le règne... ensuite, on en parle un peu moins, ça dépend des cultures, mais dans le monde de... En France, enfin en Occident, on pourrait dire angélique, le monde des esprits et le monde des divinités. Donc pour eux, tout cet ensemble de ces règnes-là communique et le but, c'est de trouver un équilibre entre les différents êtres du vivant. Et il y a aussi, dans l'animisme, le règne cosmique, c'est-à-dire les étoiles, les astres. Et il y a aussi ce qui est très important dans cette conception à la nature, les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, et qui sont aussi dans nos propres corps. On sait très bien que plus de 70% du corps est constitué d'eau, mais souvent dans les cultures, notamment au moment des initiations, hein, initiation des étapes rituelles, où on fait passer dans le chemin de vie d'une personne, d'une étape à l'autre, et on incarne cette nature en soi. Tout à l'heure, tu parlais de la vision et de regarder à l'intérieur de soi, mais en fait, que dans beaucoup d'initiations, c'est de retrouver tous ces règnes de la nature en nous-mêmes. Et que finalement, que ce qui sépare l'autre de soi n'est qu'une illusion et que tout ce système vivant se retrouve en soi. Pour résumer, hein, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, pour répondre, essayer de répondre à ta première question.
Sur la deuxième partie, d'une façon concise, bien aimable, comment on peut, comment s'y prennent les peuples premiers comme lanceurs d'alerte avec les possibilités qu'offrent ces trois mondes?
Bon, moi j'ai plusieurs témoignages. J'ai le témoignage avec les dîners. On a mis en place avec Navarro France que j'ai créé, et le fonds de dotation Pierre Rabhi. Des échanges autour de la permaculture, de l'agroécologie, entre paysans navarros et entre paysans français. Je dis paysans, en fait, parce qu'en fait, quand on se retrouve sur le territoire navarro, il y a Monsanto qui est installé et qui pousse les agriculteurs, même les jeunes agriculteurs, à faire qu'ils aient des crédits. S'ils acceptent l'argent, ça veut dire qu'ils sont obligés d'accepter les engrais, les pesticides et tout ce qui va avec. Et les emprunts. Donc, eux-mêmes commencent à être acculés de cette dette, en fait. Et par contre, parallèlement à ça, il y a encore des histoires, mais des grands-mères. Moi, j'étais dans des fermes avec des agroécologistes professionnels. On a un cahier des charges comme ça sur les échanges possibles. Et il y a des grands-mères qui ont gardé les graines premières. C'est-à-dire qu'il existe encore les premières graines non trafiquées. Mmh. Et c'est un trésor, en fait. Et je me souviens, quand j'avais donné ces graines à Pierre Rabhi directement, lui, il m'avait dit, il faut absolument que ces projets puissent échanger, même si je meurs demain. Donc, c'est pour ça que je vais la semaine prochaine là-bas aussi, pour mettre en place les projets en agroécologie. Il y a de la résistance, évidemment. Il y a vraiment de résistance. Il y a ceux qui ne savent plus très bien comment faire, mais qui sont obligés de trouver un moyen pour vivre, pour gagner leur vie, comme nous tous. Et il y a aussi ceux qui n'acceptent pas de marcher dans cette combine, parce que c'est une combine aussi, pour le coup. Et j'ai envie de dire, je peux pas donner de nom ou quoi que ce soit, mais ce sont des gens qui ne veulent pas être dérangés aussi, mais qui savent comment mettre en place des choses avec des personnes ou des structures ou des associations un peu comme la nôtre, qui depuis des années ont créé des liens de fidélité et donc du coup de soutien. Parce que ce sont des peuples qui ont ouvert leur... À chaque fois qu'ils ont ouvert leur porte, on les a spoliés. C'est on clair. A une société, une pensée qui colonise, c'est-à-dire qu'on est vraiment en tant que... Quand je dis on, c'est les... J'ai envie de dire les blancs, quoi. Je dirais, mais c'est aussi les peuples occidentaux. Ben, et là, c'est un scandale. On s'en rend même pas compte. Donc, il se trouve qu'il y a des moments, des petits échappatoires où eux sentent qu'il est possible de mettre en place des choses. Mais ils vont pas demander. Ils attendent que quelqu'un vienne et ils ont, comme tu le disais aussi... On t'écoute et après on voit s'il est possible de mettre en place. Mais ils ne viennent pas vers les autres. Et ça, c'est une force des peuples racines. Ils ne vont pas demander. S'ils demandent quelque chose, c'est à l'univers. Et à un moment donné, leur demande est tellement puissante et tellement ouverte avec l'amour et le cœur que l'univers répond à leur demande. Parce qu'ils l'ont toujours fait depuis la nuit des temps. Et c'est ça qui nous transmet.
Il y a aussi certains peuples comme les Kogi ou les Pygmées qui sont très incisifs,
ça inclut
eux,
tous
de nous lancer des appels.
Absolument.
Puisqu'ils mesurent l'état du monde.
Mais c'est vrai que ça se fait, je dirais presque en souterrain.
Effectivement, chez les Maasai, en fait, je dirais que la résistance est la non-résistance. Mangor olekuto kinkulokok. La bouche qui parle ne manque jamais son but. Ils sont formés intérieurement à avoir des pensées d'amour, des pensées et converties en mots. Enfin, pas de différence entre la pensée, le dire et le faire, c'est vraiment leur culture, hein, oui. Profonde. Oui. Par exemple, quand les Anglais sont arrivés, leur grand leader spirituel, Mbatian, a dit « Surtout, on ne bouge pas, surtout, on ne résiste pas, sinon, on sera massacré. Oui. » Et on doit continuer de transmettre notre connaissance aux futures générations. Alors, il y a eu un prophète, un homme médecine de très grande renommée, fils de Mbatian, qui a collaboré avec les Anglais, et un peu comme le maréchal Pétain, si vous voulez. Enfin, sauf que là, le deuxième frère, qui était vraiment le vrai leader spirituel, pour le coup, il est allé se réfugier dans la forêt de l'enfant perdu avec des centaines, des milliers de guerriers, des moranes, pour ne pas qu'ils interviennent, justement. Et qu'est-ce qu'il utilisait comme arme ? La prière. La prière. Et envoyer de l'amour. Et avec les arbres magnifiques de la forêt de l'enfant perdu, connexion suprême, eh bien, ça a été tellement puissant que, jusqu'à aujourd'hui, cette forêt est entre les mains des Maasai traditionnels. C'est-à-dire des Maasai qui, depuis l'arrivée des Anglais, jusqu'à aujourd'hui, et pire encore depuis évidemment l'état post-colonial, ils sont spoliés. Le Maasai traditionnel, qui est un grand lettré, enfin, au sens qu'ils sont, c'est une tradition orale, d'accord, vous voyez ce que je veux dire, qui est un grand sage, un homme extraordinaire, une femme extraordinaire, qu'est-ce qui se passe? Ils sont spoliés. Pourquoi? Ben, on a traficoté, on les a obligés à avoir une propriété privée, imaginez, alors que la terre appartient à Nkai, les pâturages appartiennent à ceux qui suivent les herbages, forcément. Donc dans tous les villages Nkanasan, les villages communautaires que j'ai connus, Maintenant, il n'y a plus ça. Et voilà, c'est un business, un racket foncier sans précédent. Moi, je suis écœuré hein, par rapport à ça. Je suis écœuré. Mais eux, ils tendent l'autre joue, les massacres traditionnels, parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Et ils font comme Saint-Théou l'avait fait dans la forêt de l'enfant perdu. Et ils continuent. Et la forêt de l'enfant perdu, grâce aux prières, elle est toujours entre les mains du massacre traditionnel. C'est incroyable. Tout le monde l'a voulu, cette forêt. Tout le monde. Ouais. Et ça, c'est un exemple unique de résistance.
On a bien la définition assez étrange des deux aspects du mot résistance.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
C'est résistance et résilience en même temps.
Oui, c'est ça. Oui,
pour l'unité, quoi.
Ah, c'est ça.
L'unité.
Les connexions dont vous parlez tous, toutes, effectivement, c'est ce que je vois, c'est ce qui est mon quotidien dans le Pacifique. Connexion avec les étoiles, le vent, les arbres, etc. Les jeunes, au jour d'aujourd'hui, sont très déconnectés de leur langue. La langue maternelle, la langue autochtone, la langue vernaculaire, parce qu'il faut qu'on s'exprime un peu tous ensemble. Alors, sur l'île de Pâques, c'est l'espagnol. À Tahiti, les autres îles, c'est le français. Demain, je raconterai une histoire des îles Marquises qui a été une revendication d'un homme parce qu'il ne voulait pas parler tahitien, parce qu'il était marquisien, qu'il avait sa propre langue. Et puis, c'est devenu un réveil culturel énorme. Les enfants adorent ce truc, quoi. C'est génial parce que quand tu es sur ta petite île et que tu croises tout le temps le même copain, tu lui dis « Regarde, j'ai un truc du bout du monde ». Et en même temps, il y a, je dois le dire, un racisme. Alors c'est un racisme ou un rejet, pas vraiment un racisme, on va dire un rejet du blanc par rapport à ce qui a été fait et ce qui est fait encore. Alors bon, nous on s'en prend plein la figure parce qu'on est un peu l'intermédiaire et que nous on vit avec eux et on est blanc, mais en même temps on n'a pas le même sentiment que celui qui a sa grosse société qui va venir... Mais bon, pour l'instant on est là. Alors on s'en prend un peu plein la figure, mais bon. Et en résistance, en disant « je ne serai pas comme toi » ou « je ne serai pas comme les tiens qui sont là-bas chez toi ». Bon, parce que toi, tu es ici, donc tu as fait quand même un effort. Mais les autres, là, les autres qui sont de chez toi, je ne veux pas faire comme... Alors, on va résister et on va reprendre notre système traditionnel d'agriculture. Alors, on va résister et puis on va quand même réorganiser nos soirées où on racontait des histoires dans notre langue. On va résister et ouais, c'est bien la K-pop, mais on va quand même d'abord danser nos danses à nous. Et en fait, moi, ce que j'ai pu voir ou vivre, en tous les cas, sur l'île de Pâques, il y a cette... on va résister aussi, tu vois, toi, avec ton avion, tu nous emmènes tous tes trucs en plastique, ben, tu sais quoi, tu te les ramènes. Et donc, pour résister, on va faire le tri sélectif, on va demander à l'Union européenne de nous donner des machines, et puis comme l'Union européenne, ils ont bon cœur, ils nous donnent des machines, alors tes ordures d'occidentaux, tu te les ramènes. Et c'est comme ça, on ne va pas résister. Il y a ce sentiment de « on est en train de disparaître entre nous » et puis en fait, ce qu'on fait nous dans les familles, c'est quand même pas très bon. Ce n'est pas ça. C'est « on va résister contre ce rouleau compresseur avec lequel on n'est pas d'accord et qui nous a spoliés et qui nous spolie toujours, etc. etc. » Il y a cette résistance d'être ensemble, mais il y a aussi quand même le feu d'être contre un système dont on voit la limite. Oui. Et ça passe par apprendre à utiliser ce genre d'outils, apprendre à utiliser avec qui je dialogue. Moi, mon dialogue, il va être par mes champs, par mes malins. Mais toi, ton dialogue, c'est avoir 20 000 followers. Tu vas voir, je vais te faire un chant et je vais avoir 20 000 followers et on va parler la même langue. Et en fait, tous nos enfants métis qui savent aller dans tous ces, dans ces différents mondes commencent à être les rusés en disant ça je veux le défendre de mon monde et ça je veux le défendre de mon autre monde. Et la résistance, elle est en train de se faire avec peut-être nous de ces générations qui avons commencé à faire les ponts et qui avons apporté à des gens dont c'était qui avaient ce vocabulaire, ils ont appris à parler, parce qu'on leur a aussi montré, enseigné, Et puis ils ont appris à parler pour se défendre avec les gens de nos institutions. Et donc, moi, en tous les cas, dans le Pacifique, c'est ce que je vois, cet apprentissage de savoir avec qui tu parles. Et donc, puisque tu ne veux pas apprendre ma langue, j'apprends la tienne. Et c'est dans ta langue que je te réponds que moi, je ne veux pas changer. Et donc, c'est ce que je vois dans le Pacifique et c'est fort.
C'est
je peux
fort.
Dire quelque
oui,
chose
je t'en prie.
Moi aussi, je me suis retrouvée enfermée. Moi, je me suis retrouvée enfermée sur l'île de Pâques 3 ans, donc je n'ai pas pu revenir ici. Quand je suis revenue ici, je suis arrivée au mois d'août, en plein moment des fêtes dans les Landes, des fêtes de Dax. Pour ceux qui connaissent, c'est habillé en rouge et blanc, et on saute comme ça, et on chante comme ça, et tout ça. Et je me suis dit, mais dans mes racines, j'ai un peuple premier. Les Gascons et les Basques.
Les Bretons, les Corses.
Les Corses, les Bretons, mais je crois qu'il y en a dans le Marais Poitevin, il y en a un peu partout. Et en fait, si on va chacun titiller nos racines, alors on est peut-être des très mélangés, moi je suis une très mélangée. Et nous aussi, on a des peuples premiers. Nous aussi, on avait des grands-mères et des grands-pères médecine et médecins. Nous aussi, on étudiait les étoiles. Nos paysans regardaient la lune. D'ailleurs, maintenant, il existe l'almanach de planter avec la lune, etc. Si on vient un tout petit peu regarder les peuples premiers que nous étions et qu'on a gommé pour faire un grand pays, la France, ça peut aussi nous réveiller.
Oui, c'est sûr.
Et puis ben, finalement, on n'est plus ce blanc méchant, on est aussi ce basque, ou gascon, ou breton, ou quoi que ce soit.
Et, pas oublier le Berry. Hein.
Et le Berry, t'as raison. Vive le Berry libre.
Bon, voilà, ben, merci. Donc, je voudrais, puisqu'on est au Festival du Légendaire, je voudrais quand même terminer par une métaphore. Et surtout avec ce que tu disais, qu'il faut retrouver nos propres racines. Il y a quelque temps, quand j'étais en train d'écrire les contes des sages celtes, j'ai eu une intuition sur ce que faisaient les bardes. Et je n'étais pas sûr. Donc j'ai été voir une anthropologue, une très vieille dame, un peu genre David Neal, vous savez, anglaise, avec son thé, ses gâteaux, mais qui a quand même passé 30 ans avec les chamans philippins. Et elle m'a dit, ton intuition est bonne. Je vais te dire comment les autochtones retrouvent la mémoire de ce qu'ils ont perdu. Et nous, nous en avons besoin. Et donc, quand un conteur va apprendre une histoire, son maître va lui dire une seule fois. Ce sont des épopées qui durent 8 nuits. Le conteur est allongé, il écoute. Il ne lui redira jamais. Il ne répondra à aucune question. Mais le disciple doit écouter le vent dans la canopée des arbres pour retrouver tous les éléments qui ont été accumulés depuis les ancêtres jusqu'à ce que son maître lui a aussi dit. Merci. Voilà, bon courage à tout le monde.
Merci à Patrick Fishman pour la modération de cette table ronde qui était organisée, je vous le rappelle, en partenariat avec la revue Native. Merci aux 4 intervenants, dont je vous rappelle les noms, Céline Ripoll, Saba Ramani, Xavier Perron et Lorenza Garcia. Merci également à l'équipe de la compagnie AMSA qui a organisé les rencontres du Légendaire les 19 et 20 novembre 2022 dans le cadre du Festival du Légendaire, et merci au Diane et Tom Danette qui les hébergeaient. Merci enfin à la société Solucast et à l'équipe de Radio Grand Ciel qui a permis l'enregistrement de cette table ronde. Vous pouvez la réécouter sur le site internet de Radio Grand Ciel, radiograndciel.fr, rubrique Les rencontres du Légendaire, et en profiter pour découvrir les échanges des éditions 2017 et 2019.